France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, un héros, Harry Potter, et sa créatrice J.K. Rowling. 7 romans, 500 millions d'exemplaires vendus, traduits en plus de 80 langues, 8 films au succès phénoménal, 760 millions de spectateurs, dont 59 en France, et 8 milliards de dollars de recettes au box-office. Voilà pour les chiffres de la saga littéraire la plus vendue de l'histoire. Mais Harry Potter a surtout marqué son époque comme peu de héros avant lui, et sur plusieurs générations, et pour longtemps sans doute. Au tournant du millénaire, à l'heure où Internet explose, une immense communauté de fans se passionne pour le jeune sorcier. Des enfants, des adolescents et même des adultes qui évoluent avec lui, en même temps que lui, au gré de romans dont les héros prônent le droit à la différence contre les fanatismes. Mais jugé transphobe par une partie des fans, victime de la cancel culture pour d'autres, J.K. Rowling a peu à peu vu son héros prendre ses distances. Car comme ses lecteurs et ses lectrices, Harry Potter a grandi avec son temps. Notre invité aujourd'hui est Corentin Fagnel, rédacteur en chef du site gazettedusorcier.com et co-auteur avec Alix Houillet de Harry Potter, décrypté par ses fans, publié aux éditions De Buck en 2022. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Jeanne Maillard, rédaction en chef Franck Olliard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Lumos Maxima.
Joanne Rowling a 6 ans quand elle décide qu'elle veut être écrivaine. Née en 1965, près de Bristol, en Angleterre, dans une famille de la classe moyenne, la fillette invente déjà des potions magiques et des sortilèges pour sa petite sœur et ses camarades. Après des études de lettres, devenue adulte, elle travaille comme secrétaire bilingue chez Amnesty International, tout en poursuivant ses rêves d'écriture. C'est en 1990, lors d'un voyage en train à travers la campagne anglaise, que la jeune femme de 25 ans imagine les prémices de ce qui deviendra un best-seller. L'histoire la voilà. Harry Potter a 11 ans quand il apprend qu'il est un sorcier. À l'école de Poudlard, le jeune orphelin découvre alors la magie, mais aussi l'amitié. Alors que le mage noir Voldemort, responsable de la mort de ses parents, s'apprête à reprendre le pouvoir. Pendant 5 ans, Joanne Rowling s'attelle à structurer son intrigue, qu'elle imagine en 7 tomes, correspondant aux 7 années d'études à Poudlard. À Porto, où elle emménageait pour enseigner l'anglais, l'autrice britannique écrit dans des cafés pendant son temps libre. Victime de violences conjugales, elle divorce avant de venir s'installer en Écosse avec sa fille, où elle continue d'écrire, malgré une dépression. En 1995, Joanne fête ses 30 ans, le jour où elle pose le point final du premier tome de sa saga, Harry Potter et The Philosopher's Stone, la pierre philosophale, cette hypothétique substance alchimique. 12 maisons d'édition, qui doivent aujourd'hui s'en mordre les doigts, refusent le manuscrit, avant que Bloomsbury Publishing ne décide en 1997 de publier Harry Potter en 1000 exemplaires seulement. Joanne Rowling devient alors J.K. Rowling sur les conseils de son agent. Parce que les petits garçons, prétend-il, risqueraient de bouder le roman car il est écrit par une femme. Harry Potter est alors une parfaite inconnue et personne ne peut se douter que son jeune sorcier changera la vie de son autrice et de millions de fans.
Action.
Collège Poudlard, école de sorcellerie. Directeur Albus Dumbledore, commandeur du Grand Ordre de Merlin, docteur S. Sorcellerie, enchanteur en chef, Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au Collège Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, cher Monsieur Potter, en l'expression de nos sentiments distingués. Minerva McGonagall, directrice adjointe.
« Cette lettre, celle que Harry Potter reçoit et qui va transformer son destin, ici lue par Bernard Giraudeau sur France Culture, va bientôt faire le tour du monde. Car très rapidement, le premier tome de Harry Potter de J.K. Rowling est un succès de librairie, plusieurs fois réimprimé au Royaume-Uni. Gallimard est la première maison d'édition étrangère à acheter les droits pour une traduction. Et le roman Harry Potter à l'école des sorciers sort en librairie en 1998. Viennent ensuite Harry Potter et la Chambre des secrets, puis Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. En moins de 3 ans, J.K. Rowling vend 30 millions d'exemplaires des 3 premiers tomes de sa série. Mais c'est à partir de l'an 2000 que son héros devient phénomène de société, au terme d'une opération marketing internationale bien orchestrée. En France, le tome 4, Harry Potter et la Coupe de Feu, sort le 8 juillet 2000, à minuit 1 précisément, dans une 50aine de librairies restées ouvertes pour l'occasion. Son nom ne vous dit peut-être rien, commente la présentatrice de Télématin, alors que des enfants se jettent sous le rideau électrique d'une librairie qui a joué le jeu du compte à rebours.
Minuit pile, le Harry Potter nouveau est arrivé. Ce n'est pas une heure pour les enfants, mais certains voulaient être les premiers.
Oui, je l'ai, enfin.
Pourquoi enfin ?
Bah, parce que l'attente a été longue et j'ai dû patienter toute la journée, attendre de pouvoir enfin tenir ce livre entre mes mains.
J'ai 3 classes au 6e. C'est toute l'année, on travaille que sur la magie et le merveilleux. Et donc, je les ai convertis au culte d'Harry Potter.
La sortie du 4e tome des aventures du petit sorcier anglais, une énorme opération marketing et commerciale, un bus a même sillonné les rues de Paris pour relier les librairies restées ouvertes toute la nuit pour l'événement.
Harry Potter et la Coupe de Feu, 645 pages qu'on dévore avidement à la récré, la nuit au lieu de dormir, et même en marchant. Ce qui est idéal pour se prendre un réverbère en pleine tête, mais peu importe. Harry reste un ami qui vous veut du bien. Certains parents, réjouis, se plongent alors dans l'univers de J.K. Rowling afin de comprendre le tour de magie qui fait lire les enfants. Et ce sont bientôt des familles entières qui s'éprennent des jeunes sorciers. Car Harry Potter est un roman complet qui peut plaire à tout le monde. Il y a des aventures, du suspense, des émotions, de l'humour, des personnages attachants et surtout de la magie. Et c'est sans doute ce qui séduit le plus, ce monde magique. Avec son école, son histoire, ses médias, ses commerces, ses divertissements, que J.K. Rowling décrit avec beaucoup de détails et d'espièglerie. Il y a l'achat de la première baguette magique, les chouettes domestiquées, les cours de métamorphose, les matchs de Quidditch, les potions, les tableaux qui parlent, ou encore les dragées surprises de Bertie Crochu, avec lequel Bernard Giraudeau décidément a beaucoup d'atomes.
Pour la première fois de sa vie, Harry avait les poches pleines d'argent et il était décidé à s'en servir pour s'acheter autant de barres de chocolat qui lui plairaient. Mais en examinant les friandises que vendait la jeune femme, il s'aperçut qu'elle lui était totalement inconnue. Jamais il n'avait entendu parler des dragées surprises de Bertie Crochu, des ballons gomme du Bullard, des chocos grenouilles, des pâtes à citrouille, des fondants du chaudron ou des baguettes magiques aux réglisses. Comme il ne voulait rien manquer, il acheta un peu de tout et donna à la jeune femme les 11 morniers et 7 noises qu'elle lui demanda. « Fais attention avec ça, Ron. Va vraiment avoir des surprises en mangeant ces trucs-là. »
Au fil des tomes et à mesure que Voldemort étend son pouvoir, le monde des sorciers se fait de plus en plus violent. D'où l'importance de l'école Poudlard, un temple de la tolérance qui accueille sorciers et sorcières, peu importe leurs origines, ainsi que des créatures magiques ailleurs rejetées sous l'égide d'un directeur et d'un garde-chasse au grand cœur. Harry Potter traverse bien les épreuves, certaines extraordinaires, d'autres plus tristement banales. Violence intrafamiliale, harcèlement scolaire, mélancolie. Mais in fine, Poudlard reste toujours synonyme de bienveillance et d'amitié, celle qu'il partage notamment avec ses 2 acolytes, Hermione et Ron. Et c'est cela la force de la saga Harry Potter. Comme Poudlard, ses romans sont des refuges rassurants, celui dont beaucoup d'enfants, d'adolescents et d'adultes ont tant besoin. En 2001, les fans découvrent les visages de Daniel Radcliffe, d'Emma Watson et de Rupert Greene. Ce sont les enfants qui interpréteront Harry Hermione et Ron dans l'adaptation au cinéma des romans de J.K. Rowling, produite par Warner Bros, et ce malgré les réticences de la romancière.
J'ai d'abord dit non. Je ne voulais pas qu'on prenne mes personnages et qu'on en fasse quelque chose que je ne voulais pas, étant donné que je suis encore au milieu de l'écriture de ma série de 7 livres. La première fois que j'ai rencontré le réalisateur Chris Columbus, il m'a promis deux choses. Qu'il resterait aussi fidèle au livre qu'il le pouvait et que le casting serait entièrement britannique. Et il a tenu ses promesses.
Le premier film, très attendu, sort en décembre 2001 et c'est un gigantesque succès qui renforce la Pottermania. Dans l'attente de la publication des tomes 5, 6 et 7, alors qu'Internet se développe à la vitesse d'un Nimbus 2000, le balai d'Harry Potter, une communauté de fans sans précédent, se forme. Sur des blogs et des forums, ceux qu'on appelle les Potterheads partagent leurs prédictions pour la suite de la saga. Des théories plus ou moins abouties, farfelues, étayées, comme la théorie du lien fraternel, depuis invalidée par les romans, qui voudrait que Harry et Hermione soient frères et sœurs. Et c'est cela qui fera perdurer Harry Potter dans le temps. Son fandom, comme on désigne la communauté des fans, qui s'écharpe et s'approprie l'œuvre sur Internet comme dans la vraie vie. J.K. Rowling en a bien conscience. Elle qui prend le temps de commenter publiquement ses théories.
Le gardien est violent.
Harry Potter 5, l'Ordre du Phénix et Harry Potter 6, le prince de sang-mêlé, sont publiés en 2003 et 2005, toujours avec autant de succès. Et c'est en juillet 2007 que s'achève la saga avec la publication d'un dernier tome très attendu, Harry Potter et les reliques de la mort. Le suspense est tel qu'en France, un jeune fan de 16 ans est arrêté à Aix-en-Provence après avoir gratuitement mis en ligne sa traduction des 784 pages du roman qui doit sortir en français en octobre. 16 ans, un an de moins qu'Harry Potter, que lui non plus n'hésite jamais à désobéir. Et c'est ce qui rend la saga unique. Les lecteurs et les lectrices de Harry Potter vieillissent en même temps que les personnages qui vieillissent en même temps que leurs acteurs. Au cinéma, entre 2001 et 2011, les traits de Harry, Ron et Hermione se durcissent, les corps changent, la barbe pousse. Sur le tournage du premier film, le réalisateur est même inquiet. Daniel Radcliffe commence à muer, ce qui pourrait rendre le montage compliqué. Des changements que J.K. Rowling souligne volontairement, comme on l'entend dans cet extrait du film de David Yates, Le prince de sang-mêlé.
Harry, tu devrais te raser, mon ami. Tu sais, par moments, j'oublie combien tu as grandi. Par moments, je vois encore le petit garçon dans le placard. Pardonne ma sensiblerie. Je suis un vieil homme.
À mes yeux, vous êtes resté le même.
Au fil du temps, les livres se font de plus en plus longs. Les intrigues et les personnages plus complexes, moins manichéens. Des éditions pour adultes sont d'ailleurs publiées. Le même texte, mais avec d'autres couvertures. À chaque tome, à chaque film, à chaque rentrée des classes, à Poudlard, de nouvelles questions apparaissent. Les personnages découvrent l'amour, mais aussi la lutte contre l'injustice, comme dans cet extrait de Harry Potter et la Coupe de Feu, lu par Bernard Giraudot, toujours, et dans lequel Hermione Granger se bat contre la servitude des elfes de maison.
Hermione prit une tarte à la confiture. « C'est à la cuisine que tu es allé chercher tout ça » demanda-t-elle.
« Ouais !» répondit Fred avec un grand sourire.
D'une petite voix aiguë, il se mit alors à imiter un elfe de maison.
« Dites-nous ce qui vous ferait plaisir, monsieur, nous irons vous chercher ce que vous voudrez. »
Il serait capable de me faire rôtir un bœuf entier si je leur disais que j'ai vraiment faim. Fred s'interrompit, l'air soupçonneux. « Pourquoi tu veux savoir ça ?»« Oh, pour rien !» répondit précipitamment Hermione. « Tu as l'intention d'encourager les elfes de maison à faire grève ?» demanda Georges. « Tu vas leur distribuer des tracts et les inciter à la rébellion ?» Il y eut quelques rires étouffés, mais Hermione resta silencieuse. « Ne va pas leur mettre des idées en tête en leur disant qu'il leur faut des vêtements et des salaires !» l'avertit Fred. Tu les empêcherais de travailler.
Qu'il s'agisse des droits du travail, de politique, d'éducation, des médias ou du système judiciaire, Harry Potter offre à ses lecteurs un regard critique sur un monde magique qui ressemble beaucoup au nôtre. Et tandis que le tyran Voldemort revient au pouvoir, au fil des tomes, les parallèles historiques et sociétaux se font de plus en plus explicites. Nazisme, stalinisme, terrorisme islamiste après le 11 septembre, J.K. Rowling s'érige contre le fanatisme, l'oppression et le culte du pouvoir tout en offrant une réponse, le combat collectif. Est-ce à dire qu'Harry Potter est de gauche ? Nombre d'analystes et de journalistes se posent la question, et pour cause. L'année suivante, la romancière soutient financièrement le parti travailliste de Tony Blair à hauteur d'1 million de livres, mais elle s'en éloigne ensuite pour se consacrer à la philanthropie. Cette autrice, dont la fortune a été évaluée à 1 milliard de dollars tout de même, multiplie les dons, notamment en faveur des droits des enfants, des femmes victimes de violences conjugales et des mères seules. Un engagement qui lui vient, comme elle l'explique, de ses propres expériences traumatiques, et en particulier des violences de son ex-conjoint. Lors de la remise des diplômes de l'Université d'Harvard en 2008, elle appelle les étudiants à défendre les plus faibles. Difficile alors de présager les polémiques qu'elle va elle-même déclencher autour de la question de la transidentité.
Contrairement à toutes les autres créatures sur Terre, les humains peuvent apprendre et comprendre des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Ils peuvent s'imaginer dans l'esprit de quelqu'un d'autre, à la place de quelqu'un d'autre. Bien sûr, ce pouvoir est moralement neutre, comme la magie dans mon monde fictif. On peut l'utiliser pour manipuler et contrôler, tout autant que pour comprendre et sympathiser. Si vous choisissez d'utiliser votre statut et votre influence pour lever la voix au nom de ceux qui n'en ont pas, alors ce ne seront pas seulement vos familles qui célébreront votre existence, mais des milliers et des millions de personnes dont vous avez aidé à améliorer la réalité. Nous n'avons pas besoin de magie pour changer le monde. Nous avons déjà tout le pouvoir nécessaire en nous. Nous avons le pouvoir d'imaginer un monde meilleur, 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 meilleur.
Yeah.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Harry Potter.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Après la publication du dernier tome d'Harry Potter en 2007, son autrice, J.K. Rowling, continue d'écrire. Une pièce de théâtre, deux livres jeunesse, des romans policiers pour adultes, et les scénarios de la saga cinéma à gros budget dérivée d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques. Mais ces dernières années, c'est surtout pour les propos qu'elle tient sur Internet que la romancière fait parler d'elle. Très présente sur X, anciennement Twitter, J.K. Rowling est suivie par plus de 14 millions de personnes. À titre de comparaison, ne lui en déplaise, Emmanuel Macron, lui, n'a que 10 millions d'abonnés.
Petrificus totalus.
14 millions de followers, dont la majeure partie ne remarque sans doute pas ces mots dans un tweet de 2019. Sex is real. Le sexe est une réalité. Trois mots qui peuvent sembler anodins, innocents, mais qui renvoient à certains malentendus tenaces autour de la question de la transidentité. Les personnes trans s'identifient à un autre genre que celui qui leur a été assigné à la naissance, mais elles ne nient pas l'existence du sexe biologique et son impact sur nos vies. Des militantes et des militants trans reconnaissent alors dans le tweet de J.K. Rowling les prémices d'une rhétorique bien connue, celle des TERF, un mouvement que définit ainsi Florence Rochefort, chercheuse au CNRS, dans Zoom Zoom Zen, sur France Inter.
Revendication principale, ce serait de ne pas s'allier avec des femmes trans, c'est-à-dire des hommes qui sont devenus des femmes. D'abord, c'est un tout petit courant. Simplement, on en parle beaucoup. Et pourquoi on en parle beaucoup aussi ? Ben parce que ça rejoint une transphobie, c'est-à-dire un rejet, une haine des personnes trans, qui est beaucoup plus large que dans le féminisme. On agite un chiffon auprès de gens qui ne connaissent pas du tout ces réalités. C'est vrai qu'elles sont nouvelles, c'est vrai que c'est d'autres langages, c'est vrai que c'est d'autres définitions, voilà, des identifications, des modèles. Et puis on joue sur la peur et on joue sur un faux sens commun qui sera, ben non, ben les hommes et les femmes, on sait ce que c'est, alors on va quand même pas nous expliquer autre chose, autre chose, autre chose.
Depuis plusieurs années, la toile, les médias et le monde politique ne cessent de se polariser autour de la question de la transidentité. Tandis que J.K. Rowling en a fait son cheval de bataille, à coups d'incessants posts, repostes et commentaires sur X. Devant ses abonnés, la romancière se défend de faire preuve de transphobie, arguant qu'elle connaît des personnes trans, qu'elle les aime et qu'elle a conscience de leur souffrance. Et pourtant, elle joue le jeu malsain du réseau d'Elon Musk, où le réflexe se substitue à la réflexion, avec des petites phrases provocantes, des simplifications, des amalgames, au fil du temps de plus en plus virulents. Il est souvent question, dans ses prises de position, d'opposer son propre féminisme à la misogynie supposée des personnes trans. En mars 2024, par exemple, elle accusait la présentatrice télé anglaise India Wilbur-Bye, victime d'une violente campagne de haine en ligne et de menaces, de véhiculer une image fantasmée et misogyne des femmes. Il faut dire que l'Écosse, sous J.K. Rowling, depuis plus de 30 ans, prend la question de la transphobie très au sérieux. Le 1er avril 2024, une loi entre en vigueur pour lutter contre les discours et les crimes de haine. Non sans controverse quand il s'agit de transidentité, comme l'explique Catherine Dutut dans Les Matins de France Culture.
Cette loi va-t-elle entraver la liberté d'expression, demandent les médias écossais. Cette loi crée donc un nouveau délit d'incitation à la haine, passible de 7 ans de prison, indique la BBC, et fondée sur l'âge, le handicap, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité transgenre. Et c'est ce dernier point qui soulève le plus de critiques et de craintes pour la liberté d'expression, note le quotidien The Scotsman. Elon Musk, le propriétaire de X, anciennement Twitter, et J.K. Rowling, la créatrice de la saga Harry Potter, qui vit à Édimbourg, rappelle le New York Times, font partie des critiques les plus véhéments. J.K. Rowling a affirmé hier être impatiente d'être arrêtée si ses propos tombaient sous le coup de la nouvelle loi. Son message se terminait même par le hashtag Arrest Me, arrêtez-moi, relève The Scotsman.
Sur X, où elle poste très régulièrement, J.K. Rowling met dos à dos le combat féministe et le militantisme trans, comme si le second excluait le premier. Soutenir les personnes trans, avance-t-elle, c'est retirer des droits aux femmes biologiques, comme elle les appelle. Pire, affirme la créatrice de Harry Potter, sous les vêtements des femmes trans pourraient se cacher des prédateurs. Et c'est l'un de ses combats principaux. Faire interdire aux personnes transgenres l'accès aux toilettes pour femmes, aux prisons pour femmes et aux centres d'accueil d'urgence pour femmes. Afin de protéger les femmes, selon elle. Sur son compte X, elle compile des crimes commis par des personnes trans, comme celui de Isla Bryson, coupable de 2 viols alors qu'elle était encore un homme, car réel, rare et particulier, mais érigé en généralité. Et c'est violent. Suivront d'autres polémiques, notamment lors des JO et Paralympiques de Paris, durant lesquelles J.K. Rowling accuse l'androgyne boxeuse Iman Relif, qui n'est pas transgenre, d'être, je cite, « un homme frappant une femme ». Un tweet brutal, au moment où la chef d'extrême droite du gouvernement italien, Giorgia Meloni, tient un peu ou prou le même discours, et qu'Iman Relif, accusé de se faire passer pour une femme pour tricher, subit une immense campagne de cyberharcèlement. Le youtubeur Matt Bernstein et la philosophe Nathalie Wynne reviennent sur la chronologie des tweets de J.K. Rowling, dont l'un des derniers en date lui a valu des accusations de négationnisme.
Il y a 2 semaines, J.K. Rowling a vu un tweet que quelqu'un lui avait adressé et qui disait « Les nazis ont brûlé des livres sur la transidentité. Pourquoi êtes-vous si déterminé à défendre leur idéologie concernant le genre ?» Ça l'a visiblement beaucoup énervé puisqu'elle a posté une capture d'écran avec cette légende. Comment avez-vous pu écrire cela et appuyer sur envoyer sans penser que vous devriez vérifier vos sources et que vous aviez peut-être de la fièvre? En réalité, ce tweet que J.K. Rowling a qualifié d'insensé est vrai. C'est factuel. Les nazis ont effectivement interdit et détruit certains des tout premiers ouvrages très importants à l'époque sur les soins de santé et la recherche sur la transidentité. Ça s'est passé le 6 mai 1933. Les nazis ont fait une descente à l'Institut de sexologie de Berlin et ont brûlé 20 000 livres dans la rue. C'est un événement très célèbre. C'était l'un des premiers autodafés nazis.
Dès 2020, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Greene publient des déclarations de soutien à la communauté trans. Lors de la cérémonie des BAFTA 2022, les Césars britanniques, Emma Watson, ex-Hermione, affirme dans un discours s'exprimer pour les sorcières. « Toutes les sorcières », insiste-t-elle. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, de nombreux fans, trans ou non, expriment leur déception, voire leur douleur face à l'attitude et les croyances de la romancière. Poudlard, ce temple progressiste de la tolérance, aurait-il fermé ses portes? En tout cas, l'heure est au questionnement chez les fans et dans la communauté LGBTQIA+. Pour rester en accord avec soi-même, faut-il continuer à aimer Harry Potter, à lire Harry Potter, à regarder Harry Potter? Faut-il renoncer à cet imaginaire si réconfortant parce qu'il a été imaginé par une femme aux propos discriminants et violents? Des fans s'interrogent pour le Washington Post.
Allô, Maura.
As trans people.
En tant que jeune personne trans, on est tout le temps sur nos gardes. Il y a si peu d'endroits où on se sent en sécurité, où on peut baisser la garde et s'affirmer. La communauté de fans d'Harry Potter était un de ces endroits, jusqu'à ce que J.K. Rowling arrive et nous enlève ça.
Ne donnez pas d'argent à J.K. Rowling, n'achetez plus ses livres, n'achetez plus les jeux.
Je pense qu'on peut toujours chérir l'histoire, mais qu'on ne peut plus soutenir la franchise économiquement.
J.K. Rowling peut vendre les droits à Warner Bros. Pour faire des films, mais elle ne possède pas les droits de ce que Harry Potter signifie pour tellement de gens, dont moi-même.
Une partie d'Internet et des médias dénoncent, eux, la chasse aux sorcières dont J.K. Rowling ferait les frais. Parce que, comme souvent, sur le web, ce déversoir des passions tristes, des internautes vont loin, trop loin. La romancière reçoit régulièrement des insultes et des menaces sur Twitter, où une photo de son domicile est même publiée. De nombreux journalistes relaient l'information selon laquelle les romans de J.K. Rowling seraient brûlés dans des autodafés 2.0, diffusés sur les réseaux sociaux et asociaux. Dans les faits, les RTBF a comptabilisé 3 vidéos de ce genre. Le couperet ne se fait pas attendre. On accuse les fans de cancel culture ou de culture de l'annulation. Ce concept venu de la droite américaine pour remettre en cause les méthodes d'une partie des militants de gauche et en particulier le boycott. En janvier 2022, l'émission Retour à Poudlard, diffusée par HBO Max pour célébrer les 20 ans de la sortie au cinéma du premier Harry Potter, met en scène les retrouvailles de l'équipe du film. L'absence de J.K. Rowling est largement commentée et relance le procès en cancel culture du fandom d'Harry Potter. La romancière rétablira elle-même la vérité. C'est elle qui a refusé l'invitation parce qu'elle ne se sentait pas concernée par le tournage des films. Du point de vue de la Warner Bros. Et de ses différentes filiales, Harry Potter est loin d'être cancelled ou écarté. Le jeu vidéo Hogwarts Legacy, qui se passe à Poudlard, est le jeu le plus vendu en 2023, malgré des appels au boycott partagés sur les réseaux sociaux. Et un nouveau parc à thème, accessible aux petits comme aux grands, doit ouvrir ses portes en 2025, dans le but clairement affiché d'attirer de nouveaux fans. Enfin et surtout, la plateforme HBO prévoit pour 2026 une série événements dont la diffusion doit durer 10 ans, comme l'annonce Nicolas Loïc sur la radio belge RTL Info en octobre 2024.
La grande nouvelle qui excite les Potterheads depuis quelques jours, c'est qu'un casting a été lancé. Il est ouvert jusqu'au 31 octobre. Il accepte tous les enfants qui habitent au Royaume-Uni ou en Irlande. Critère important, les jeunes acteurs doivent avoir entre 9 et 11 ans au mois d'avril 2025. Et donc, on peut en déduire que le tournage de la première saison aura lieu au printemps.
On peut donc aussi en déduire que les anciens acteurs, ils vont pas partir de l'aventure, évidemment.
Ah oui, ils sont devenus un peu vieux pour jouer des écoliers. Et puis, on le sait, pour Daniel Radcliffe, Rupert Everett et Emma Watson, Harry Potter, c'est derrière eux. Et dans tous les cas, ce sera une série historique, puisque la Warner Bros., qui est derrière tout ça, prévoit un budget de 200 millions de dollars. Rien que pour la première saison, c'est le plus gros budget de son histoire.
Une adaptation télévisée aux enjeux de mise en scène complexe, puisque ses producteurs entendent respecter le texte de J.K. Rowling, c'est le moins qu'ils puissent faire. J.K. Rowling, productrice exécutive et consultante au scénario, mais tout en explorant les nouvelles attentes du public, notamment au travers d'un casting inclusif et diversifié, y compris en termes d'identité de genre. Ce que Warner Bros. Et HBO ont bien compris, c'est que Harry Potter évolue avec son temps, et surtout avec ses fans, qui n'ont cessé depuis 1997 de se réapproprier le texte de J.K. Rowling via Internet. Eux qui partageaient leurs prédictions pour les tomes à venir dans les années 2000 vont désormais plus loin. Les Potterheads prolongent l'œuvre de J.K. Rowling, voire la réécrivent. Sur YouTube, TikTok, Wattpad, jeunes et moins jeunes partagent des textes appelés fanfiction, mais aussi des illustrations, le fan art, ou des fanfilms et des webséries comme autant d'interprétations de Harry Potter. Dans le domaine de la fanfiction, les fans font ainsi naître des couples qui n'existent pas dans la série, et notamment des couples gays et lesbiens comme Harry et Drago ou Luna et Ginny. Fanfiction et fan art, que J.K. Rowling n'a jamais remis en cause, deviennent un soutien, un espace où s'exprimer librement pour des personnes ailleurs marginalisées. Un refuge, comme Poudlard. Mais au-delà de la question de l'amour et de la sexualité, nombre de fans questionnent la saga tout en la façonnant pour qu'elle réponde à leurs propres convictions. Ils intègrent ainsi à leurs histoires et à leurs images des personnages plus féministes qui dépassent les stéréotypes parfois relayés par les romans. Des personnages qui portent le voile, des personnages handicapés, des personnages non-binaires ou trans. Ils abordent des sujets qui les touchent, relations toxiques, agressions sexuelles, racisme, bref. Les fans s'approprient Harry Potter, cette œuvre qui les a formés et qu'ils se permettent de former à leur tour. Tandis que la Warner Bros. Tire Harry Potter par le bras droit, les Potterheads s'accrochent, eux, à son bras gauche. Et bien que certains ont appelé au boycott de l'œuvre de J.K. Rowling, Harry Potter reste pour beaucoup un repère et un soutien. Et ce, près de 30 ans après la sortie du premier tome de la saga littéraire. Le jeune sorcier n'a pas été cancelled, mais il a pris son indépendance. Il a grandi. Tandis que J.K. Rowling joue avec le feu sur X, les fans font d'Internet un terrain de jeu à la fois créatif et politique. Et c'est sans doute cela, la vraie magie. La ferveur sans cesse renouvelée de cette communauté qui a appris, grâce à Harry Potter, l'importance du collectif et le pouvoir de l'imagination face à des tyrans que l'histoire renouvelle sans cesse.
Grashimas, Expecto Patrono.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui Harry Potter, notre invité Corentin Faniel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du site gazettedusorcier.com et co-auteur avec Alix Houillet de Harry Potter, décrypté par ses fans. Livre publié aux éditions de Buck en 2022. D'abord, comment avez-vous rencontré Harry Potter, vous ?
J'étais déjà un bon lecteur et puis voilà, tous les jours, tous les week-ends, je lisais des livres. Et ma maman a posé le livre sur ma table de nuit en me disant « Tiens, on m'a dit que ça te plairait peut-être. »
Vous avez quel âge ?
J'avais 8-9 ans. Mm-hmm. J'ai refusé de le lire. Voilà. Et puis un jour, je me suis dit « Bon, j'ai plus rien d'autre à lire. Je vais me lancer. Ok, je vais donner une chance. » Et voilà, et c'est parti. Et moi, mon premier vrai souvenir lié à ça, c'est vraiment l'attente effectivement du tome 4 qui devait sortir en juillet 2000. Et vraiment cette attente de « Voilà, je veux la suite, j'attends la suite, je veux savoir ce qui va arriver. »
Et qu'est-ce qui, à l'époque, vous attend plus dans ces romans et vous plaît encore aujourd'hui, et cette fois en tant qu'adulte ?
À l'époque, c'était la magie, c'était voilà, cette aventure, toutes ces questions, en fait, quand on revient dessus, quand on regarde Harry Potter, c'est vraiment construit comme une intrigue policière. En fait, dans chaque livre, il y a ces énigmes, et puis il y a cette énigme qui va couvrir les 7 tomes, et on a envie de trouver la réponse, et on se rend compte qu'il y a des indices dans les tomes précédents. Puis le temps d'attente, bah on relit, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'indices et on s'accroche de plus en plus à ces éléments-là.
Et vous pensez que cette saga a influencé votre manière de voir le monde au-delà du plaisir de découvrir une histoire et un puzzle et une enquête ?
Pour moi, définitivement, parce que bon, j'ai un vécu de fan un peu particulier. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je gère ce site. Ça fait plus de 15 ans que je suis sur un forum de fans vraiment très actif. Mmh. Et donc, ça a influencé ma vision parce que j'ai rencontré des gens, j'ai voyagé à travers Harry Potter, j'ai vécu des choses incroyables et ça m'a confronté à des points de vue différents. Donc, ça a inévitablement, j'ai rencontré des amis, ça a façonné ma manière de voir le monde, inévitablement.
Mmh. Et sur votre site, qu'est-ce qu'on trouve ?
Nous, on parle sur la Gazette d'actualité du monde magique. On a aussi beaucoup de décryptage. On a des podcasts, des analyses justement littéraires. On va parler des conférences universitaires aussi qui se tiennent autour d'Harry Potter et qui vont décortiquer cet univers. Et puis tout ce que les fans ont créé, le quadball, anciennement Muggle Quidditch, le Wizard Rock, le fanactivisme qui est aussi une implication activiste dans le monde.
C'est-à-dire quoi ?
C'est-à-dire que des fans qui, il y a maintenant 19 ans, ont créé la Harry Potter Alliance. Et le but c'était de réunir des fans pour utiliser leur passion d'Harry Potter pour les mener vers l'activisme collectif. Par exemple, la collecte de livres pour Haïti, après les catastrophes, la mobilisation pour du chocolat fair trade dans tous les produits dérivés Harry Potter, pour dire pas en notre nom, et puis mobilisation pour des élections, et mobilisation aussi pour la communauté LGBT, avec des slogans tels que « Personne ne devait vivre dans le placard ».
Et on appelle les fans d'Harry Potter les « Potterheads ». Selon vous, qu'est-ce qui fait que cette communauté est unique dans son genre ?
C'est une des premières communautés de fans qui a envahi Internet. Internet s'est développé vraiment en parallèle avec Harry Potter. Donc, ça nous a donné un outil incroyable. Et il y a aussi cette attente, justement, entre les tomes qui nous a donné du temps de réfléchir, de créer et de partager tout ça avec l'outil Internet qui était extrêmement puissant. Mmh. Et donc, la communauté Harry Potter a vraiment établi les bases de ce qu'est le fandom sur Internet. C'est ça qui nous rend particulier. Aujourd'hui, tous les fandoms reprennent ce que les fans d'Harry Potter ont fait.
Mmh. Est-ce que vous vous rencontrez physiquement ? Ça vous arrive ? En France, par exemple, parce que vous avez parlé à l'autre bout du monde.
Oui,
est-ce que ça arrive ?
Bien sûr, il y a des conventions, il y a des événements. Ouais. La Gazette, on avait organisé notre anniversaire, nos 20 ans, en 2020. Donc c'est l'occasion de justement de se rencontrer, de partager, de réfléchir ensemble parfois, ça dépend des formats d'événements évidemment, et puis les sorties des films, les avant-premières, c'est l'occasion beaucoup de, pour beaucoup de fans de vivre ces expériences collectives.
Alors, Harry Potter, c'est aussi un énorme business. Hein. Il y a les films, les jeux vidéo, les parcs d'attractions, les produits dérivés, des millions, des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, il est arrivé que les fans parviennent à faire le poids contre la Warner Bros.
Oui, exactement. Ben, je parlais notamment du chocolat Fairtrade dans les produits dérivés.
Ah oui, c'est un exemple.
Ouais, voilà, c'est un exemple tout à fait concret. Les fans ont créé à ce moment-là leur propre grenouille en chocolat, parce que voilà, pour dire, on n'achètera plus de chocolat s'il n'est pas Fairtrade. Et au bout d'un certain temps, ça a fonctionné.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le quad ball ?
Le quad ball, c'est
qu'on a évoqué dans le récit. Ouais.
Tout à fait. C'est une adaptation du Quidditch, donc qui est le sport des sorciers, qui a été transféré au monde moldu, donc où c'est un mélange de dodgeball, de rugby, de handball et parfois même d'arts martiaux, puisque le vif d'or est une personne physique qu'on doit, dont on doit récupérer une balle, donc qui a le droit de se défendre physiquement. Et ce sport est, comme dans les livres, mixte. C'est-à-dire que dans les livres, on voit les équipes de Quidditch ont des hommes et des femmes qui jouent et qui font partie de la même équipe. Et donc ce sport a établi dans ses règles dès le début qu'il y avait un nombre maximum de joueurs d'un genre précis sur le terrain à tout moment. Et c'est une notion importante, justement, cette mixité et cette reconnaissance de l'identité, puisque c'est une femme transgenre ou un homme transgenre vont jouer dans leur genre et pas en fonction de leur sexe.
Donc vous véhiculez les évolutions actuelles de la société, c'est un but ça, d'être en phase avec ces évolutions-là.
Le Quidditch qui maintenant est devenu quadball pour plusieurs raisons, il y avait la raison de se distancer des propos de J.K. Rowling, mais aussi simplement de pouvoir se développer, parce qu'à partir du moment où Quidditch est un mot sous copyright, et donc pour se développer il fallait le changer, tout simplement. Mais oui, évidemment le Quidditch évolue avec son temps, et évolue avec ses fans, avec leur compréhension de notre société actuelle. Mais cette compréhension, elle est vraiment enracinée dans voilà, le message d'origine de la saga, et comme on disait, le sport qui, dès le début, dans les livres, est mixte.
Alors comment vous gérez les rapports entre les fans et l'autrice en fonction de ce qu'elle a déclaré ? Ça ne va pas être facile quand même pour vous.
Alors, chacun va gérer son rapport. Je pense que c'est quelque chose de très personnel. La Gazette, pour nous, on est très clair sur la nature des propos transphobes de J.K. Rowling. On pense que Harry Potter est un outil, justement. C'est un outil qui a permis à de très nombreux fans d'explorer, de comprendre des nouvelles notions. Et pour nous, ça reste aujourd'hui encore un outil, parce que notre compréhension de la saga Harry Potter, elle a évolué avec le temps. Quand on grandit, on redécouvre les choses différemment.
Bien
on
sûr.
Lit une scène qu'on avait appréciée à une époque, et puis on se rend compte, ah là, il y a peut-être quelque chose, moi, l'exemple que je prends toujours, c'est le filtre d'amour qui rend quelqu'un éperdument amoureux. Quand on lit la scène, quand on est enfant, on trouve ça drôle. Et puis, quelques années plus tard, on relit la scène, on se dit, ah oui, mais en fait, c'est de la drogue du viol.
Ouais,
c'est beaucoup moins drôle.
Ouais.
Et c'est pas un problème d'avoir cette évolution de notre compréhension.
Bien sûr, bien sûr.
Au
contraire.
Voilà. Donc c'est très sain et on veut amener les gens justement à continuer à lire et à comprendre et à découvrir autrement cette saga.
Une lecture à tiroir.
Voilà.
En fonction de l'âge.
France Inter. Affaires sensibles.
Aujourd'hui, Harry Potter, on en parle avec notre invité Corentin Fagnel. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site gazettedusorcier.com et co-auteur avec Alice Houllier de Harry Potter, décrypté par ses fans, un livre publié aux éditions de Buck en 2022. À la lumière de ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire qu'Harry Potter est un temple du wokisme ?
Alors, moi, j'aime pas du tout le terme wokisme. Pour moi, le wokisme est une invention, justement, de droite pour décrédibiliser simplement une invention de droite pour décrédibiliser simplement la lutte contre les discriminations. Personne ne va dire, enfin personne que je pense, ne va dire que c'est une mauvaise chose d'être conscient des discriminations, du sexisme, du racisme qui existent. Donc, je suis vraiment contre ce terme, et je ne pense pas que Harry Potter soit un temple du wokisme. Je pense que Harry Potter est un outil. Harry Potter est une école de la vie et une école de positive par bien des aspects.
Et comment J.K. Rowling a réagi face au désaveu de nombreux fans qui ont appelé au boycott, précisément, ou tout simplement exprimé leur tristesse de l'avoir s'écarté du chemin de la tolérance, en particulier des fans transgenres qui ont pris la parole sur Internet?
J.K. Rowling, elle s'est jamais vraiment attaquée aux fans dans leur ensemble. Elle continue
Si t'étais le comble, quand même.
Elle continue à dire qu'en fait, elle prend tout ça pour un soutien. Elle dit, voilà, regardez, je reçois encore plein d'argent. C'est la preuve que la majorité du monde est derrière moi. Moi, je pense que c'est la preuve que la majorité du monde n'est pas toujours informée sur la question. Mais donc, elle va s'attaquer aussi, elle s'est quand même aussi attaquée surtout aux acteurs de la saga, dont elle a dit qu'elle ne les pardonnerait jamais, mais que ce n'était pas à elle qu'il devait présenter des excuses. Et qu'elle a traité un peu quand même de tous les noms, de soutien de très nombreuses choses horribles, mais qui ne sont pas réelles, oui. Qui sont vraiment dans sa vision du monde.
Dites-moi, on va finir avec ça, une série est prévue pour 2026, on annonce 10 saisons, c'est bien, non? Vous êtes content?
Ça va dépendre beaucoup de
la qualité.
Comment le projet est mené, ça soulève beaucoup de questions au niveau, on l'a dit, d'un casting inclusif ou non. Et comment cette inclusivité est amenée? Donc, on va voir et seul l'avenir nous le dira.
Ah oui, on verra. Merci.
C'est ça.
En attendant, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Harry Potter, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.